Radio éphémère 89.1 MHz.
Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 8 avril 2006, il fait beau, il fait chaud, c'est le printemps et vous écoutez la radio. Comme tous les samedis, éphémère ouvre avec les magazines, supplément week-end, à l'heure japonaise cette semaine. Puis le cahier du sport et à partir de 15h du mix...
Non, tu as dit à l'heure japonaise.
Ah pardon, bon, il faut rajouter 7h alors. À partir de 22h du mix avec en mode progression, 23h Big Bang, 20h, vide ordure pour du punk... 1h du matin pour une fois, tu peux l'ouvrir une émission participative. Je sais, ça fait un peu tard. Le numéro de téléphone, c'est le 0033 561 580 580. 1h du matin, 2h du matin, excusez-moi, happy hour. Je vais planter 3h du matin, la Stereo Experience. Et de 4h30 du matin, Liquid Sky. Et à partir de 6h du matin jusqu'à midi le lendemain, Breakbeat Experience de la Jungle, là pour une grosse soirée en plus. Et je vais y arriver, vous écoutez FMR, nous sommes en direct sur 89,1 MHz jusqu'à midi, heure de Tokyo.
FMR, vous n'aviez jamais écouté de radio.
La semaine dernière, 1er avril, supplément week-end n'a pas pu s'empêcher de glisser trois poissons.
Eh oui, il y avait la venue de Moebius à la librairie Atmosphère, le film de James Cameron qui est un remake du Pierrot le Fou de Godard, et Julien Courbet se présentant au présidentiel.
Donc la bonne nouvelle, c'est que Frédéric Boilier et Aurélia Horita sont effectivement nos invités en direct et en public. Bonjour. Et on commence évidemment avec une prog musicale tout en douceur, James Hardway.
Yeah.
et je me suis trompé, c'était pas le bon morceau que je voulais passer. Bah, ça arrive, que voulez-vous. Mais c'est bien James Hardway. Eh, bah, attends, excuse-moi, Tom.
Ce sera marqué dans le procès-verbal de l'émission.
Oui, oui. Bon, c'est, il faudra expliquer au fur et à mesure. Du Sport vient d'arriver. On terminera à 20h pile, heure de Tokyo, pour une raison toute simple. Parce que Du Sport, lui aussi, il y a des invités de son côté. Donc, voilà, ça va bien se passer. Ceci dit, on va peut-être dire bonjour à nos invités. Frédéric Boilet, bonjour.
Oui, bonjour.
Rudy Aorita, bonjour.
Bonjour.
Ils sont donc venus pour l'événement Nouvelle Manga qui a lieu en ce moment à Toulouse, c'est-à-dire qu'ils seront en dédicace tout à l'heure à la librairie Album, mais aussi il y a une exposition de planches originales qui a lieu donc au cinéma ADC. C'est plutôt rigolo parce que depuis que je commence à parler de bande dessinée sur Radio FMR, systématiquement début avril, il y a une émission qui est consacrée à la rentrée au Japon, donc aux mangas, aux séries, etc. Et là, ben, c'est le match retour finalement, puisqu'on s'était rencontrés il y a 5 ans, en octobre 2001, ouais, pour le premier événement Nouvelle Manga qui avait lieu à Tokyo. Et là, du coup, donc c'est Nouvelle Manga à Toulouse. Donc, voilà. C'est, j'étais obligé de t'inviter et de te faire
merci.
Venir.
Obligé,
merci,
comment
merci
ça
ben, c'est un plaisir quand même. Attends. Je tiens à remercier aussi, surtout quand même, Ludovic Graia, l'organisateur qui est parmi nous et qui donc n'hésitera pas à prendre le micro s'il le faut. Il y a aussi Claude Album, les fanatiques de BD le connaissent sûrement. Et puis Sabrina, que vous avez déjà eu régulièrement sur cette antenne, irrégulièrement. Tu es un ex de temps. Oui, bon, d'accord. Hein. On y va, peut-être. On va commencer par la bio de Frédéric Boilet. Ah, Frédéric Boilet, après de nombreuses collaborations dans une presse BD hélas sinistrée, il sort son premier livre, Le Rayon Vert, mais c'est dans 3615 Alexia qu'il va vraiment trouver sa voie, la BD quasi photographique. Aussi bien sur le dessin que le scénario. Deux collaborations avec Benoît Peters vont sceller son destin, Love Hotel et Tokyo et mon jardin. Avec l'aide d'un important éditeur local, il va s'installer au Japon et finalement, il va y rester. Et il décrira avec ce même regard précis l'amour et ses déboires. Il porte le même regard de journaliste du quotidien dans un troisième livre avec Peters, Demi-tour, qui se passe le soir de l'élection 95 en France. Au Japon, il commence à se faire connaître en travaillant pour des éditeurs prestigieux, mais c'est en 2001 qu'il va faire beaucoup de bruit. Il lance sur son site web un manifeste de la nouvelle manga, un dogme dont l'épinard de Yukiko est l'œuvre Initiatis. En fait, une constatation sur l'évolution de la BD, puisque cet album sera édité en France chez Ego Comics, qui est un éditeur indépendant justement spécialisé dans l'autobiographie. En octobre 2001, le festival Artlink, dans les quartiers de Ueno et de Tanaka, à Tokyo, marquera de fort belle manière le coup. 5 ans après, directeur de collection de la collection Saka chez Casterman, traducteur de bande dessinée européenne au Japon, traducteur de manga pour la France, il est le point de liaison entre l'Est et l'Ouest qui fait découvrir les deux côtés le 9e art adulte au sens de réellement mature, concrétisé dans le collectif Japon qui vient de sortir chez Casterman, qui réunit 17 auteurs justement des deux bords. Et pour ceux qui idéalisent encore le Japon par la manga mainstream ou qui ne sortent jamais du quartier diplomatique, il vient de sortir L'Apprenti Japonais, un très bon guide absolument pas touristique. Aurélie Aorita, ne cherchez pas son nom dans Google, il se trouve que c'est le nom systématique de la méduse commune, c'est vous dire si cette jeune femme aime à se montrer piquante et n'a rien à cacher. À 25 ans, doctoresse en pharmacie, elle est fortement accro à deux drogues particulièrement puissantes, l'amour, et on va pas l'en blâmer, et le Frédéric Boilet acclimaté du Sipangou. Son ordonnance racontée et sa vie mise littéralement à nu sous forme d'un journal BD. Et à la différence de celui de Fabrice Nou, il y a le dessin proche de la manga, il y a la fausse naïveté et il y a le bonheur. Après tout, c'est normal qu'il s'y frotte si pique pour une méduse. Ami auditeur qui ne reçoit pas la couleur, l'équipe de Supplément au week-end peut dire deux choses sur le physique de Mademoiselle Aorita. 1. Elle est très belle. 2. On pourrait croire qu'elle est japonaise.
Ouais, donc d'ailleurs à ce propos, on les avait rencontrés il y a 2 ans à Angoulême. Et je pense que tu t'en souviens encore.
Oh non.
Si, t'avais commencé à lui dresser la parole en japonais.
Oui, il m'avait dit « Hajimemashite ».
Et là, Fred t'avait dit « Non mais tous les Asiatiques qui sont avec moi, elles sont pas forcément japonaises ».
Et voilà, comment se rendre ridicule. Et donc Aurélia Aorita vient de sortir un bouquin qui...
Et comment fâcher Aurélia pour le reste de la journée.
Oh oui, c'est vrai, je n'en suis absolument pas fier.
D'ailleurs, il y a un truc rigolo dans ta bande dessinée « Fraise et chocolat ».
Fraise et chocolat, voilà, de chez les Nouvelles Impressions.
Tu parles de tous ces connards qui se permettent de t'adresser la parole en japonais.
Oui, enfin, connard, oui. C'est...
Ah si, c'est ce que tu as marqué,
oui,
dans ta BD.
C'est ce que j'ai marqué, mais c'était dans le moment. J'ai dit, oui, c'est des connards. Et en fait...
Mais oui, tu m'as dit, rappelle-toi le gars Angoulême.
Oui, voilà. je me dis, oui, peut-être qu'il va le lire et qu'il va se reconnaître dedans, en fait. Donc, c'est bien que vous m'invitiez aujourd'hui, comme ça on peut remettre les pendules à l'heure. Hein.
C'est marrant que nos destins soient à ce point liés, tout de même.
Oui.
Enfin, ça la fout mal. Tout ça pour vous dire quand même qu'elle vient de sortir un bouquin, Fraises et Chocolat, donc aux Impressions Nouvelles, où elle montre qu'on vit très bien d'amour et d'eau fraîche, normal pour une méduse, mais particulièrement chaud, et je crains que ça nous attire des emmerdes d'ailleurs, je vais appeler le CSA de suite. Allô ? Oui ? Oui, le CSA, oui, bonjour. Ouais. Je voudrais savoir, Dominique Audis, là, il écoute quoi en ce moment ? Ouais. Rire et chanson, le quota de blagues racistes ? Oh non, qui écoute encore une heure ? Oui, merci, bien. On peut y aller, les gars, je crois qu'on a vraiment la paix. On va commencer d'abord à parler peut-être de ce qu'est la nouvelle manga. Je pense que ça va être de propos parce que c'est quand même pas évident à en causer.
Bah, pas évident, oui. Posez-moi une question, je vais voir si je peux répondre.
Bon, alors partir au Japon et leur expliquer comment faire de la manga, c'est quand même plutôt gonflé. Finalement, le gaijin voilé, c'est pas la pierre qui fait se courber les lignes du jardin zen.
Et expliquer, j'ai pas compris là.
Partir au Japon, oui, et expliquer aux Japonais ce qu'est la manga.
Mais j'explique absolument pas aux Japonais ce qu'est la manga.
Oui, mais est-ce que par hasard tu n'es pas la pierre qui justement perturbe la rigidité du jardin zen ?
Non, c'est pas du tout. Non, par contre, ce que je cherche à expliquer, d'un côté aux Japonais et de l'autre. Parce qu'en fait, ce qui caractérise la nouvelle manga, c'est que c'est une initiative croisée. Elle concerne pas spécialement la manga japonaise, elle concerne pas spécialement la bande dessinée française. C'est plutôt une vision un peu globale des choses. C'est une manière de dire que, ce que je crois franchement, le mot manga définit en France à tort un genre qui n'existe pas. Le genre manga n'existe pas. Donc, en France...
C'est une origine.
Hein ?
C'est une origine, en fait.
Bah, c'est-à-dire, en France, il est déformé. On a cette idée d'un genre qui correspond au shonen, grosso modo. Hein, les BD pour ados, un peu SF, un peu plus ou moins violente. Enfin, qui dit manga dit ça dans l'esprit des gens.
Oui, ou hentai aussi, c'est-à-dire la bande dessinée, porno, les fantasmes sexuels les plus tordus. C'est ça, les deux, quoi.
Donc, et de même, les Japonais, quand on leur dit, on leur parle de ce qu'ils appellent le French comic, puisque le mot BD est pas encore tout à fait populaire là-bas, mais ils appellent ça French comic. Ils ont une vision extrêmement restreinte qui correspond grosso modo à Bilal. Et donc, histoire de SF avec des beaux dessins, mais une histoire un peu difficile à comprendre. Au point que quand on leur dit je suis auteur de bande dessinée français, ils pensent qu'on fait du Bilal. Et quand moi j'essaye par exemple de montrer les BD de Joas Farr à un éditeur, on me dit non, vous savez, nous on a publié Bilal et ça s'est pas vendu, donc avec la nouvelle manga, ça a rien à voir, mais c'est aussi con que quelqu'un qui vous dirait en France j'aime pas la manga, enfin j'aime pas le manga puisqu'on dit le ici, hein. Mais alors que la bande dessinée japonaise est évidemment d'une diversité et d'une richesse et d'une ampleur qui permet pas de la mettre dans un genre comme ça. Et avec l'initiative Nouvelle Manga, j'ai essayé de montrer que cette catégorisation en genre BD pour donc ce qui est en Europe, grosso modo France, Italie et Espagne, c'est à peu près ce marché-là. Manga, pour le Japon, et même comics pour les États-Unis, sont des genres tout à fait artificiels. Et au-delà de ces genres, à l'intérieur de ces faux genres, il y a en fait une bande dessinée tout à fait universelle. Qui paradoxalement, alors c'est une bande dessinée qui sort des formats commerciaux établis. Alors évidemment, la BD de super-héros aux États-Unis, elle existe. Mais le comics, quand on dit comics, on pense à ça. Mais fort heureusement, il n'y a pas que ça.
Il y a le strip comics, il y a le graphic novel et tout ça.
Donc on s'aperçoit, c'est parce que je m'en suis aperçu par mon expérience, en m'exilant moi-même au Japon et en me retrouvant dans cette situation de publier mes bandes dessinées au Japon, j'étais surpris de voir qu'elles étaient lisibles, et qu'il n'y avait pas besoin d'être fan de BD que le lecteur japonais n'avait pas besoin d'être fan de BD pour lire et comprendre mes bandes dessinées. Et à l'inverse, j'ai voulu présenter en France des BD venues du Japon qui me semblait pouvoir être lu par tout le monde, même si on n'est pas fan de manga. Hein.
C'est le, justement le texte qui est à l'entrée de l'exposition Nouvelle Manga à l'ABC en ce moment. C'est, tu disais justement que les bandes dessinées qui s'adressent à un public vraiment mainstream et vraiment commercial, là on voit vraiment les distinctions, mais quand on gratte un peu pour aller voir les bandes dessinées d'auteurs, ça c'est vraiment universel.
Paradoxalement, quand ces bandes dessinées ciblées, elles ne sont pas universelles, elles sont illisibles par un public qui n'est pas initié, qui n'est pas fan. Alors évidemment, au sein de ce public habitué au code, etc., donc on parle du boom du manga en France, mais c'est vrai que jusqu'à tout récemment, jusqu'aux toutes récentes publications, dont dans Sakam, il n'y a pas que ça. Hein. On s'adressait vraiment à un public extrêmement...
Sakam, c'est la collection que tu diriges chez Caster.
S'adressait à un public restreint de fans, ce qui me désolait. Évidemment, puisque je pensais que la bande dessinée japonaise, s'il y a bien un moyen d'expression, s'il y a bien un pays où la bande dessinée justement a montré et a prouvé qu'elle pouvait s'adresser à tout le monde, au-delà des genres et au-delà des âges, au-delà des goûts, c'est justement au Japon. Donc, le paradoxe, c'est qu'on réduit ça à la BD japonaise pour adolescents en France. Donc j'ai voulu simplement essayer de... L'initiative de le manga, c'est... Voilà, c'est ça.
C'était une manière de renouveler, justement, de... c'est un constat, ce que j'ai introduit en intro.
Renouveler, on peut renouveler le pas ce qui existe déjà. Hein. D'ailleurs, moi, j'ai rien inventé. La bande dessinée d'auteur de qualité, qu'elle soit japonaise ou qu'elle soit française, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, simplement, c'est une manière de dire que, de montrer que ça existe aussi, quoi.
Quand on parle maintenant de nouvelles mangas, on pense tout de suite à Jiro Taniguchi, Fabrice No, Craig Thompson, Étienne Davodeau, Lewis Trondheim. Je parlais évidemment du blog de Frantico.
Ah oui, d'accord.
Finalement, il est sorti vraiment au bon moment. Il y a vraiment eu une explosion autour de ça et ça a ouvert une brèche pour pas mal de gens.
Oui. Enfin bon, là, c'est tous des noms que tu cites. Fabrice No.
David
Kay, la nouvelle manga, c'est une initiative d'auteurs. Hein, donc, il y a quelques auteurs, on n'est pas très nombreux, qui sont vraiment actifs. Hein, qui par leur attitude, c'est une attitude en fait, la nouvelle manga, une attitude artistique. Alors justement, c'est là que je voulais préciser ça, c'est que c'est pas un genre. Hein. Parfois on essaye de confondre nouvelle manga avec manga à la française. Alors là surtout pas, je veux dire, c'est tout l'inverse. Il y a quelques auteurs comme ça actifs, comme moi-même, et puis maintenant Aurélia, et puis il y a quelques auteurs amis qui peuvent s'inscrire dans l'initiative manga comme ponctuellement dans le cadre d'expositions, par exemple Fabrice No qui a accepté de participer à l'exposition Nouvelle Manga à Tokyo, ou Taniguchi à cette même exposition. Donc en ce sens, ce sont des amis de la Nouvelle Manga, mais ce ne sont pas des auteurs Nouvelle Manga, disons, hein, au sens où ils sont pas actifs. Et puis il y a des auteurs qui n'ont strictement rien à voir, que je connais pas, mais ou simplement je me dis, bon, si la nouvelle manga c'est simplement la bande dessinée, qu'elle soit japonaise, française, américaine, mais si ça définit une bande dessinée d'auteur universel, il y a des tas de gens qui peuvent évidemment y correspondre. Donc j'ai dû être amené une fois à parler de Craig Thompson, ou par exemple de...
Oui, parce que lui, il dit bien que c'est inspiré de la bande dessinée française quand il a vu l'Ascension du Homal de David B.
Oui, peut-être qu'un point commun, finalement, avec tous ces auteurs...
D'ailleurs, il est sorti chez Casterman, donc le lien était aisé.
Je ne savais pas ça, mais moi, quand par exemple, j'ai pu éventuellement évoquer Craig Thompson, c'est parce que, qu'on aime ou pas, je veux dire, au-delà de ça, il me semble que son discours était universel. Et d'ailleurs, la preuve.
C'est ça qui est étonnant, finalement, le côté le plus universel, c'est de raconter la vie quotidienne.
Mais c'est rien d'autre. Vous savez, les gens, quand vous parlez de soi, ils disent que vous êtes narcissique, mais c'est tout l'inverse. Plus on parle de soi, plus on est universel. Et c'est justement quand on s'éloigne de son quotidien, de soi, qu'on commence à mettre en forme, à stéréotyper, à faire des choses pour un public, etc. C'est là qu'on perd de plus en plus d'universalité. Donc moi, je crois que la plus grande marque de respect quand on fait une œuvre, quelle qu'elle soit, c'est déjà d'essayer de pas dire de conneries. Et le meilleur moyen de pas dire de conneries, c'est encore de parler de ce qu'on a pu voir, ressentir et vérifier dans sa vie quotidienne, et non pas de ce qu'on a pu lire ou entendre ou de ce qui va plaire à un certain public, etc. Donc là, franchement, c'est le point clé. J'ose à peine en parler, tellement ça me paraît évident, mais plus on parle de soi, plus on est universel.
D'accord. Quand tu as publié ton manifeste, c'était en mars, si je me souviens bien, mars-avril 2001, sur le site qui t'était consacré.
Ça, je m'en souviens. Non, il me semblait que c'était en juin, je ne sais plus.
Ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu une répercussion immédiate, parce que tout de suite, tu as été intégré à un événement artistique assez festif qui
a lieu
à Tokyo.
Ah non, alors c'est pas dans cet ordre-là que ça s'est passé. J'ai écrit ce texte qui c'était pas du tout un manifeste, c'était le texte de présentation de l'événement en fait. J'ai écrit ce texte dans les préparatifs, c'était un gros événement, hein, l'événement Nouvelle Manga, comme tu le sais, puisque tu l'as vu de tes propres yeux. C'était un an de travail avec plus de 50 bénévoles, c'était vraiment un très gros. Et donc une première étape, c'était...
Avec beaucoup de moyens, puisqu'il y avait...
aucun moyen financier.
Aucun moyen financier, mais il y avait vraiment de la passion, il y avait vraiment envie de faire bouger des choses.
Des
c'est
gens
ça qui
compétents
est
et motivés. Voilà, alors effectivement, ces gens-là se sont motivés autour de l'idée que j'avais expliquée, peut-être mieux qu'aujourd'hui, j'en sais rien, de la nouvelle manga. Et donc m'ont proposé, mais il n'y avait pas de moyens financiers. C'est ça qui est très curieux, c'est qu'on a fait des choses avec des bouts de ficelle pour finalement arriver à quelque chose qui a une ampleur au-delà de toute espérance. Mais une étape de ça était donc d'écrire un texte pour expliquer un peu ce que c'était que la nouvelle manga. Donc j'ai écrit ce texte sans volonté polémique ni rien. Enfin, c'était juste pour expliquer. Je me souviens l'avoir envoyé pour première lecture à Benoît Peters. Et puis il me dit, mais dis donc, c'est un manifeste que tu nous écris là.
Venant de lui, quand même, c'est un bel encouragement.
Oui, c'est-à-dire, il me dit, on va appeler ça comme ça, alors, un manifeste. Donc en tout cas, tu parlais tout à l'heure de dogme, non, certainement pas, ça n'a rien à voir. Je vais te dire, c'était même pas dans mon idée, quand je l'ai écrit, je pensais même pas faire un manifeste, c'était pas ça. Je pensais juste expliquer un peu les choses, quoi. Alors finalement, j'ai mis le mot manifeste. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que ça a dépassé l'impact que je pouvais imaginer. Aussi bien dans le bon sens que dans le mauvais. Mais ça a commencé à faire des polémiques invraisemblables. Enfin, et puis, alors ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, en le publiant en français et en japonais, et puis très rapidement, j'ai fait une version anglaise. Et aujourd'hui encore, ça c'est un peu le phénomène internet, c'est amusant, mais je vois les gens qui polémiquent aux quatre coins de la planète sur mon machin que j'ai écrit. Enfin, je veux dire, c'est clair que je l'ai pas écrit en pensant à ça. J'ai pas pensé que ça aurait une telle ampleur. Puis ça l'a eu. Bon.
Mais c'est ça qui est étonnant, c'est que en France, il y a, je crois, en moyenne 2 festivals par semaine consacrés à la bande dessinée. Et finalement, il a fallu 5 ans, et je tiens quand même pas à réduire le travail de Ludovic Graillet, quand même, qui est là, parce que franchement, ce serait dommage, parce que justement, il a pris l'initiative, mais c'est étonnant que ça n'ait pas eu lieu plus tôt, puisque finalement...
C'est-à-dire, il y a une raison à ça, c'est que moi, j'ai pas... l'événement de Nouvelle Manga, ça a été un tel travail bénévole, l'attitude d'auteur Nouvelle Manga, telle que je la conçois moi, c'est surtout du sacrifice, quoi, hein. Ça veut dire se consacrer gratuitement son énergie, son talent éventuellement pour les BD des autres. Donc, évidemment, l'événement Nouvelle Manga de 2001 a été créé sous le prétexte de la sortie en français et en japonais à l'époque de l'épinard du Kiko. C'était un peu le déclic, donc ça servait aussi pour présenter mon propre travail. Aujourd'hui, la Nouvelle Manga à Toulouse, le déclic, le petit... Voilà, c'est pour présenter le Fraise et Chocolat, le livre d'Aurélie Horita. Mais au-delà, ça, c'était pas le but. C'est pas là. Le but, c'est évidemment de pouvoir trouver une occasion de présenter le travail de Fabrice Naud, de David B. Et donc, voilà. Donc, l'événement Nouvelle Manga terminé, et le bilan étant ce qu'il était, favorable, etc. Effectivement, on pourrait se dire, on va continuer, mais quoi, je peux pas passer ma vie. Donc, moi, j'ai pas suscité spécialement. J'ai pas œuvré pour renouveler ça sur ma propre initiative. C'est peut-être pour ça que les choses ont mis du temps pour venir en France, je sais pas. Et donc là, en l'occurrence, c'est Ludovic qui a proposé. Au départ, l'idée était de proposer une exposition autour de Japon. Et donc, comme on avait les étudiants d'une université des Beaux-Arts de Tokyo avaient monté une première expo l'année dernière en octobre dans une université près de Tokyo. Il y avait cette base d'une expo qui était déjà disponible. Donc moi j'ai proposé de la reprendre, et on l'a complétée notamment avec les planches de fraises et chocolat, et voilà. c'est comme ça que les choses se sont faites, mais il vous l'expliquera mieux que moi, je suppose.
D'accord. C'est ça qui est intéressant dans cette exposition qui a lieu au cinéma ABC, c'est qu'on peut voir donc les planches du bouquin collectif Japon qui est sorti, du bouquin d'Aurélia, donc Fraises et Chocolat, aussi de quelques-uns de tes livres comme L'épinard de Yukiko. Et on peut comparer vraiment l'édition, le résultat imprimé des livres en France par rapport aux planches, et quand même ce qui choque, c'est le travail des trames qui était catastrophique. Moi je me souviens quand on avait lu Tokyo et mon jardin, tout le monde avait trouvé ça super noir, pas mal de libraires ont dit oula quand même qu'est-ce que c'est sombre et tout, et quand tu m'as montré l'édition japonaise, j'étais tombé, j'étais scié parce que ça n'avait rien à voir. Le travail d'auteur, grâce justement à tous ces auteurs dont on a cité, ils ont remis au centre le travail d'auteur plutôt que celui d'éditeur. C'est-à-dire qu'ils ont pris eux-mêmes en main le dessin de leur livre imprimé. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un travail éducatif à faire du côté des imprimeurs?
Ça, bon, pour une page imprimée sera rarement aussi flatteuse et aussi belle qu'un original. Ça, je crois que quoi qu'on fasse, il n'y a rien à faire. Maintenant, concernant cette question des trames, je ne pense pas que parce que c'est ça que tu voulais dire, ouais, que l'édition de Japon en France...
Les trames étaient beaucoup plus claires, beaucoup plus nuancées.
Il ne me semble pas. Peut-être alors qu'elle a... Oui, je ne sais pas. je pense que là, maintenant, on est arrivé. Ce qui s'est passé avec Tokyo Mon Jardin, ce que tu citais là, c'est que le livre est sorti en 97. Et à l'époque, alors pour quelle raison, j'en sais rien, mais les éditeurs franco-belges, les imprimeurs franco-belges n'avaient aucune habitude des trames à la japonaise. Et donc, ils ont très très mal sorti celle de Tokyo Mon Jardin. Et Taniguchi, qui avait passé une année à les faire quand même, était extrêmement déçu. Enfin, il disait, mais bon, alors. Et ce qui s'est passé, c'est qu'une année après, l'édition japonaise est sortie. Parce que moi, je pouvais dire ce que je voulais à l'éditeur, à Casterman. Bon, mais c'est nul. Non, mais on peut pas faire mieux, etc.
Oui, enfin, surtout que Casterman, à l'époque, avait son propre imprimeur.
Et donc, une année après, l'édition japonaise est sortie, et c'était impeccable. Et donc, je leur ai montré. Et là, eux-mêmes ont dû dire, bah oui, quand même, il y a quand même une différence, quoi. Et donc, bon, mais cela dit, depuis, les techniques ont évolué, notamment grâce aux techniques digitales, hein, ordinateurs, etc. Donc, maintenant, grosso modo, on sait, en France aussi, imprimer les trames. Donc, c'est plus un problème par rapport aux trames techniques ou d'incompétence, etc. C'est simplement qu'après, bon, il y a des papiers de plus ou moins bonne qualité, qui restituent plus ou moins la finesse des trames. Celui de Japon est pas le papier de global de la collection Écriture. C'est sûr que c'est un papier qui est pas médiocre, mais c'est pas un papier de luxe.
Ouais, hein. Il boit beaucoup.
Il boit un peu, il a un peu. On fait des efforts pour essayer de l'améliorer, mais il faut rester dans les contraintes d'un livre à 12,50 €. Voilà, donc il y a c'est toute la difficulté d'un éditeur. Bon, moi je suis plutôt auteur, mais depuis que je travaille avec Casterman, évidemment, je suis confronté à ces contraintes qui sont toutes bêtes. C'est que, évidemment, alors on peut les avoir encore mieux, les trames, mais du coup, le livre, il va faire 20 €. Et donc, alors à ce moment-là, on nous dira, ben oui, mais pourquoi faire des livres aussi chers? Par exemple, Ego Comics, qui a une toute autre approche de l'édition, fait des livres impeccables, hein, au niveau de l'impression, de la maquette, mais ils sont quasiment inabordables au niveau tarif pour et là, j'avais quelqu'un qui m'expliquait ça récemment par internet, un lecteur qui était à 100% dans mon idée de la nouvelle manga. Il m'expliquait ça, mais oui, mais le problème, c'est que alors vous dites que les BD d'auteurs sont universelles et qu'elles peuvent toucher un large public, mais comment voulez-vous qu'on touche un large public avec des livres à 23 €? C'est pas possible. Et là, il pensait à Ego Comics. Donc, Japon, finalement, là, c'est une occasion d'amener une bande dessinée d'auteurs. Effectivement, a priori universel, c'est-à-dire qu'il peut toucher un public en France qui n'est pas seulement celui des fans de manga, et à condition évidemment que ce soit un tarif raisonnable, disons. Ça l'est. Alors c'est peut-être un tout petit peu au détriment de la qualité d'impression, mais enfin elle est loin d'être médiocre, hein, je veux dire, c'est pas... Mais, et le résultat est là, finalement, vous savez, c'est très difficile de faire des ventes avec un collectif, c'est pratiquement invendable. Un recueil d'histoires courtes ou un collectif est par nature condamné à rester sur les étagères et à pas se vendre. Or, Japon est sorti et au bout de 3 semaines, tout s'est vendu. Japon, grosso modo, c'est le livre qui prouve enfin ce que j'essaye d'expliquer depuis 5 ans. C'est que la BD d'auteur est sur le principe. C'est au fond ça qui est commercial. C'est ça, puisque c'est universel.
D'accord.
Si, voilà, mais bon, là, en l'occurrence, voilà, 12,50€, quoi.
Bah, d'accord, ok. Ben, ça tombe bien puisqu'on va envoyer la pub puisqu'il est midi 30 secondes et 57, 30 minutes et 57 secondes sur la poubelle des radios. 89.1 MHz, supplément week-end avec Aurélien Orita et Frédéric Boilet.
100% de plaid, 100% prod français. En or. Yeah. Orita, c'est Youtman, c'est parti. Pour le centre massif, écoute. C'est des disques pour mars 2006 à la Fnac et autres disquaires. Original album mixé du Central Massive, mixé par Red Eyes, animé par moi-même, MC Youthman, écoute bien. Pour le show, 100% de plaid française avec Swede, Selfish, Lucid, les Fantastics, Harry Hunter. Avec des tracks originales de Red Eyes, DJ Monks et moi-même Youthman.
You don't have my money for me, I'll crack your fucking head wide open in front of everybody in the back. It's just about the time that I'm coming out of jail. Hopefully, you'll be coming out of your home. Moi-même Youthman, avec des tracks exclusifs de la scène française. Original album mixé du Central Massive à la Fnac et autres disquaires. CD dispo mars 2006.
Et ce soir en soirée au Liquid Club à partir de 23h.
Sexy Sushi. C'est sexy, ouais. C'est comme un poisson dans l'assiette de Monsieur Mitsubishi. C'est cru. Ça tape, ça cogne. Ça hurle à la nuit tombée sur les collines qui en tournantes. Sexy Sushi. Les Sexy Sushi traversent la Loire. Kraniko Sushi, Taco, Story Guy, Uni. Fraîcheur garantie. Sexy Sushi chez Pierre le samedi 15 avril. C'est Lassie qui assurera une très fidèle première partie. C'est un concert éphémère. Sexy Sushi.
Faire ce que tu veux, c'est bien de gérer sa vie. L'important c'est d'être heureux pour les salopes y compris.
Tu l'as fait exprès là?
Ouais, je crois, ouais. Non, on y sera, donc venez en profiter. C'est assez sympa et rigolo. Ils se définissent même comme de la hard tech pour cascadeurs. Du sport tout à l'heure recevra de la compète, du longboard, ouais. Et du. Hein?
Non, des rendez-vous de longboard, pas de la compète justement.
Enfin, d'accord, ok.
Vous l'expliquerons mieux que ça parce que bon, j'ai une conversation téléphonique qui a duré 2 minutes, quoi, tu sais, alors c'est pas évident. Quoi. Bon, on verra ça en direct, au calme tout à l'heure.
Voilà, éphémère en direct et en public, supplément week-end. On reçoit Fred Boilet qui a tenté d'expliquer Nouvelle Manga, il est très bien arrivé. Maintenant, eh ben, on va passer à la casserole. Aurélien Orita, qui, je le rappelle, le nom latin de la méduse. Je sais pas, hein, je te jure.
C'est comestible, hein, les méduses, donc, mais on les fait pas à la casserole. En Chine, on les mange crues en salade. Ah ouais. Ah ouais.
Eh ben, on peut dire que ton bouquin, Fraises et Chocolat, qui vient de sortir aux Impressions Nouvelles, on l'a dévoré tout cru. Alors Thomas, je crois que c'est toi qui commence.
Oui. Oui. Alors, si on pouvait décrire ton dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait le qualifier en dessin un petit peu naïf, un peu à la Mes voisins les Yamada, un peu, on va dire.
Ben, en fait, c'est plutôt l'héroïne, le personnage principal, que je décris volontiers comme naïve. Et puis, en même temps... pas complètement. Donc oui, c'est...
Bah, je parlais du trait, pas du personnage.
Oui, mais c'est lié, hein. Vous savez, je n'irai pas jusqu'à dessiner, par exemple, comme dans les dessins animés, un peu caricaturaux, un méchant avec des gros sourcils, tout ça. Mais c'est... si on dessine un personnage naïf, c'est bien de dessiner de manière naïve.
Alors, je voulais savoir si c'était le thème que tu choisissais, qui était de la BD érotique, tu avais choisi le penchant avec ce dessin. Assez typé.
Attention,
naïf ou un peu pour, on va dire, gamin, entre guillemets.
On entame la signalétique là, 12 mois minimum là, parce qu'on vous dit, c'est naïf, mais c'est chaud dans l'histoire.
Oui, c'est super chaud. Alors, est-ce que tu étais parti de ce trait et tu t'es dit, je peux explorer un thème vraiment pour les personnes un peu plus âgées, hein, moins. Interdit au moins 16, par exemple.
16, ou est-ce que... Moi, je pense que dès qu'on a un intérêt pour les choses du sexe, de l'amour, on peut le lire. Hein.
Oui.
Ça peut débuter plus tôt que 16 ans.
Alors, ma question, c'était, est-ce que c'était le trait qui avait inspiré le thème ou est-ce que c'était l'inverse?
C'est plutôt l'inverse. En fait, avant, je dessinais pas de la même manière. Je faisais d'abord un crayonné et puis c'était très statique. Hein, parce que quand on repasse sur un dessin, forcément, ça perd en vie. Et au début, je voulais faire ce livre. J'étais partie sur... Je voulais raconter une histoire d'amour. Comme ça, une histoire de passion. Et au début, je voulais le faire avec mon ancien style. Et puis finalement, je me suis rendu compte que ça passait mieux avec un dessin esquissé. Enfin, je me suis rendu compte, on me l'a conseillé. Donc, j'ai mis du temps quand même à changer de style. J'ai mis un an. Donc, voilà, c'est l'histoire qui a influencé le trait.
D'accord.
moi, je voudrais savoir, est-ce que tu t'es rendu compte que, en racontant aussi crûment ta liaison avec Fred Boilet, tu niques complètement le business de Voici?
Mais moi, j'en ai rien à foutre du business de Voici, parce que mon but, c'est pas de déballer, de faire du scoop. Mon but, c'est de raconter une histoire. Et maintenant, si je fais une histoire basée sur des faits réels, l'important, c'est ce qui va ressortir à la fin, l'histoire, quoi. Pas les potins.
Et on a très bien vu avec l'introduction de Johan Sfar, puisque c'est un de vos confrères qui maintenant vous perçoit différemment. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos confrères comme ça qui sont dans son cas, est-ce que vous avez senti des regards qui changeaient
Qu'est-ce que ça veut dire percevoir différemment? Est-ce que vous pouvez m'expliquer?
Quand il dit oulala, maintenant quand je vais les avoir au resto en face de moi.
Ah oui. C'est au niveau de la vie privée.
Voilà.
Ah, mais ça c'est le problème, le principal problème de l'autobiographie, c'est que c'est basé sur la vie privée. Et puis le truc, c'est que en plus c'est faux. Moi je pense pas que ça existe vraiment, l'autobiographie, parce que dès l'instant où on met en scène, c'est faux. Donc il faut pas que les gens prennent ça au pied de la lettre. Moi c'est ce que je dis pour rassurer mes amis. Ne vous inquiétez pas. L'héroïne porte mon nom, mais c'est un personnage avant tout. Donc bon, s'il y a des gens qui sont gênés, ben je leur dirais, ben non, faut pas être gêné.
C'est vrai que tu n'as jamais repassé ces chemises.
Ah bah ça, c'est mon jardin secret, on va dire. Ça fait partie de la pirouette finale aussi. C'est-à-dire que tout le monde, bien sûr, en lisant Fraises et Chocolat, se demande, mais est-ce qu'elle repasse vraiment les chemises de Frédéric Boilet? Ou pas?
Non, on a eu de la censure, excusez-moi.
Pour les chemises.
Oui. Mais c'est assez érotique, ces allers-retours et tout ça.
Tous les goûts sont dans la nature. Hein.
Ce qui est étonnant quand même dans la graphie justement de Fraises et Chocolat, c'est que tu as des tics de mangaka qui sont très prononcés dans la caricature. Il y a notamment un style de dessin qui est très particulier, c'est un peu l'équivalent de la tête à Toto, qu'au Japon ils utilisent de temps à autre pour montrer soit la perplexité, soit l'impassivité. C'est vrai que tu l'utilises inconsciemment, j'ai l'impression.
Oui,
dans...
en fait, c'est plutôt des réminiscences de mes goûts quand j'avais 14 ans. Et même un peu avant, parce que quand j'étais petite, comme beaucoup de Français, je regardais les dessins animés japonais à la télé. Donc, j'ai absorbé ça quand j'étais petite. Et c'est... À un moment, j'ai essayé de faire... Quand j'avais 14 ans, j'ai essayé de copier de la manga. Et finalement, bon, j'ai mûri un petit peu, mais ça m'est resté, en fait. Mmh. Mais je suis contente, en fait, qu'on reconnaisse mes influences japonaises. Parce que c'est pas forcément évident.
Je peux dire une petite chose?
Mais bien sûr, t'es là pour ça.
Non, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a une chose que je trouve formidable dans le dessin, la manière dont elle se dessine, notamment. C'est que très souvent, au cinéma, effectivement, mais encore plus en bande dessinée, quand on représente une femme, quand on veut montrer une femme, on prend des actrices formidables, elles sont très jolies, et en BD, c'est toujours, on dessine toujours des femmes extrêmement belles. Plus l'auteur est un garçon, et plus la femme elle est belle. Et la beauté, elle est en général très stéréotypée. Moi, ouais. Je vous le dis, j'aime pas les femmes dessinées par Moebius, parce qu'elles n'existent pas, quoi. On sent que c'est un fantasme. Enfin, quand je dis Moebius, c'est tout ces
oui,
gens.
Oui, il y a beaucoup d'exemples.
Et ce qui est rigolo, c'est que là, on a une femme qui se dessine elle-même. Et comme vous l'avez remarqué... Elle est très jolie.
Elle est rougie, mais ça se verra pas.
Et en fait, quand elle se dessine petite boulotte.
c'est vrai.
C'est quand même. C'est le contre-pied de tout ce que les mecs font, quoi, en général.
Vous voyez, l'autobiographie, c'est d'abord un regard qu'on porte sur soi-même. Et le regard qu'on porte sur soi-même n'est pas forcément le même que les autres portent sur vous. Donc,
oui, et puis il est surtout.
Voilà, pour Frédéric, c'est un mensonge, mon dessin. C'est-à-dire que je ne suis pas une petite boulotte.
Oui. Mais simplement, voilà, tu cherches pas à dessiner un personnage fantasmé.
Non,
voilà, tu te. Certainement, en plus, comme c'est toi, tu as une certaine réserve aussi.
Ce serait bizarre si je fantasmais sur moi-même.
Si tu te dessinais
quoi.
Aussi jolie que tu es, personne ne te croirait.
Vous voyez comment il m'a séduite.
Heureusement qu'il y a la photo à la fin du bouquin.
Ah bah c'est une idée de Frédéric, justement.
D'accord.
C'est pour les épater tous.
Oui, je suis son trophée, je suis sa femme trophée.
On va aller au fond du sujet.
Non.
Ah bon?
Non, mais je voulais dire, ça m'inquiète un peu parce que, en fait, Frédéric Boilet, on sait que pratiquement chaque bouquin, ça correspond à une conquête amoureuse, etc. Toi aussi, tu racontes qu'il y a eu d'autres amoureux. Mais les rapports ne sont pas protégés dans la BD. Est-ce que c'est un oubli?
Mais ça, c'est.
Les rapports ne sont pas protégés.
C'est-à-dire avec un préservatif. Mais on ne fait pas une BD d'éducation.
Ça donne l'introduction de
Jean-Luc Sfar, là. Sans aller jusqu'à raconter.
N'importe quel couple, à partir d'un certain temps.
Mais c'est-à-dire qu'on n'allait pas nous représenter en train d'aller faire un test HIV. Enfin, c'est pas notre but de faire. Bien sûr, il faut se protéger, mais c'est pas une brochure, après les chocolats. Sinon, dans ce cas-là, j'aurais dû faire un petit truc. Alors comment mettre un préservatif avec une banane ou un truc comme ça? Non, c'est pas un truc éducatif. Même si Johan, dans sa préface, s'en amuse et il dit qu'on devrait le distribuer en pharmacie pour les amoureux.
C'est très beau.
Ouais, c'est beau, moi j'étais trop contente qu'il dise ça.
D'un autre côté, on va revenir à Frédéric Boilet, puisque j'avais commencé gentiment en parlant à chaque fois que... Il était vraiment amoureux, il faisait un bouquin absolument formidable.
Non, tu as parlé très maladroitement de conquête amoureuse, ce qui n'est pas du tout le cas.
Ouais, c'est vrai,
bon,
en fait.
Je déconne. Mais j'essaie de pédaler dans la semoule pour faire une intro. Mais ce que je voulais savoir...
Si quelqu'un est conquis, c'est moi. Je pars jamais à l'assaut de rien du tout. Hein.
Mais quand tu parles de tes bouquins, finalement, tu parles de ta vie quotidienne. L'épinard de Yukiko, l'apprenti japonais, finalement, c'est un blog, mais payant.
Oui, alors bon, cette histoire de blog...
Non, mais je sens que tu vas encore pédaler.
Non, je pense pas. Je suis même pas au courant qu'il y a des blogs. Je savais même pas. C'est effectivement une réaction qu'on a. D'ailleurs, je les lis pas, les blogs. Je trouve ça assez ennuyeux en général.
Il y a des bonnes choses.
Ça non, mais c'est tellement.
Tu te croises comme partout. Hein.
Oui, bon, enfin, en tout cas. Bon. À aucun moment j'ai fait ça avec le mot blog en tête. J'ai composé l'apprenti japonais. Avec cette idée, d'autant que je ne parcours pas les blogs. Et puis, les premières notes, d'ailleurs, des 100 premières pages de l'apprenti japonais sont un recueil de mes notes et croquis qui datent de 1993. Je ne crois pas que les blogs existaient à l'époque.
Oui, tout à fait.
Ça me semble...
D'ailleurs, l'apprenti japonais est vraiment très très rigolo à lire par le regard et par tous les quiproquos et le formalisme de la société japonaise.
Et justement, tu parlais de ton agenda où on voit les traits super expressifs comme carnet de route, en fait. Et je me demandais si tu serais capable ou si tu avais l'envie de faire un album rien qu'avec ce style de trait plutôt que de retoucher les photos, en fait.
Non.
Non ?
À la limite, si je vais dans un sens, ce sera un livre de photos.
D'accord.
C'est plus ça que j'arrêterai de dessiner, d'accord. Oui. Donc, parce que... voilà, je les années passant, je sais pas pourquoi, j'ai de moins en moins envie de dessiner. Quoi. Donc, à la limite, si je dois faire une évolution, ce sera soit vers la photo ou le film, si c'est de l'image, soit vers faire le texte.
D'accord.
Oui.
D'accord. D'un autre côté, c'est un recueil de pas mal de boulot que tu as fait à gauche à droite, que l'on avait déjà vu. Il y a notamment cette série de dessins, ta collaboration avec la Saï Shibon autour de la presse étrangère, qui est pas mal du tout d'ailleurs.
Hein, merci.
Non, franchement, j'ai trouvé que c'était assez amusant.
Ça pour moi, c'était une expérience invraisemblable.
Mais justement, est-ce que tu as envie de la reproduire, cette expérience, de devenir dessinateur de presse?
Oui, c'est-à-dire, bon, quand je disais que c'était invraisemblable, c'était que je pensais... tu sais que la Asahi Shimbun, c'est le deuxième plus gros quotidien au monde. Hein,
oui, donc, ça je sais, oui. Qui poursuit de près un autre quotidien japonais, mais c'est le plus gros tirage, 7 millions je crois.
8 millions 300 000 exemplaires. Le premier, c'est le Yomiuri Shimbun, son concurrent, qui est plus à droite, et qui fait 14 millions d'exemplaires. Bon. Donc, je me suis retrouvé du jour au lendemain à publier un dessin toutes les semaines dans cette tribune invraisemblable. De manière assez triviale, quand je te disais, c'était une expérience formidable, je pensais à ça, tu vois, bon. ce qui est l'autre chose qui était passionnante pour moi, c'est que du jour au lendemain, je me suis retrouvé effectivement à me poser des questions de dessinateur de presse, de caricaturiste, qui est un métier que j'ai jamais fait. Mais j'ai dû le faire du jour au lendemain, et pour 8 300 000 lecteurs, quoi, bon. Et donc en ça, oui, c'était une expérience formidable. Ça a duré 2 ans. Oui, si on me propose de le refaire, je pense que je le ferai. D'ailleurs, il y a un nouveau magazine qui est paru au Japon, qui est le pendant de Courrier International,
ouais.
Qui s'appelle Courrier Japon. Ils se sont inspirés de Courrier International et ils m'ont déjà demandé quelques illustrations. Pour moi, ce qu'il y a, c'est que l'enjeu, là, il était différent. Enfin, c'est-à-dire, moi, je suis pas dessinateur de presse, humoriste, caricaturiste, donc je savais d'emblée que je devais pas partir dans cette piste-là, puisque j'avais de grandes chances de me planter, puisque tellement de gens ont fait ça depuis tellement d'années, tellement mieux que moi, que je voulais pas aller vers cette piste-là. Donc je suis simplement allé vers une piste qui était la mienne, qui est une piste qui était un terrain que je fréquente depuis plus longtemps, qui est celui du quotidien. Donc mes illustrations dans la Asahi Shimbun parlent de thèmes d'actualité aussi divers que la guerre en Irak, l'économie mondiale, etc., etc. Mais j'ai essayé à chaque fois d'exprimer un point de vue, donc comme un caricaturiste, sur ce sujet-là, mais sans jamais faire d'humour, et sans jamais quitter le quotidien japonais, enfin en m'efforçant, il y a peut-être une ou deux images qui s'en écartent, mais exprimer... alors les images peuvent être drôles parfois parce que je fais un petit décalage, je fais des choses comme ça et ça amène une drôlerie, mais le but est pas de faire rire, hein, et le but est pas de caricaturer, c'est simplement de d'exprimer un point de vue. Alors c'est en fait, je crois que j'ai choisi de faire le plus difficile, quoi, c'est-à-dire exprimer un point de vue avec rien, quoi, à la base des éléments extrêmement difficiles à manipuler qui sont le non spectaculaire, le quotidien, etc. Et paradoxalement, je vais vite terminer sur cette histoire. Je pense que l'apprenti japonais qui essaie d'être une découverte progressive du Japon, je pense que c'est dans la dernière partie finalement où je ne cherche plus à parler du Japon. Évidemment, j'en parle en filigrane, puisque c'est le Japon et derrière chacune des images. Mais le but n'est pas de parler du Japon, puisque je parle de la guerre en Irak ou des choses comme ça. Mais il me semble que le Japon le plus... Eh bien, peut-être, je me rapproche le plus du Japon dans cette partie-là, en fait.
C'est leur vision du monde qu'ils ont.
C'est quand je cherche le moins à parler du Japon que donc, peut-être, j'en suis le plus proche. Voilà, donc en ce sens, la progression est peut-être respectée.
Frédéric Boilet, auteur donc de l'apprenti japonais qui vient de sortir aux Impressions Nouvelles, Aurélia Orita pour Fraises et Chocolat, aux mêmes éditions, et le collectif Japon qui vient de sortir chez Casterman. Vous êtes tous les deux en dédicace à la librairie Album tout à l'heure à partir de 15h. Il y a l'expo de planches qui est au cinéma ABC jusqu'au 30 avril, si je me trompe. Et on va faire une petite pause musicale avec les Malpolis qui sortent leur nouvel album, La fin du retour de la chanson française. Et ils sont demain en interview sur FMR. Je vous dis, il y a du monde ce week-end sur le plateau.
Bonjour, et on démarre tout de suite avec du football.
Charlotte va passer en cinquième, mais pas sa meilleure copine. Qui doit redoubler l'année prochaine, et ça la saoule, ça la déprime. Parce que sa copine Emmanuelle, personne ne compte plus à ses yeux, elle est un peu grosse, moins jolie qu'elle, comme meilleure copine, y a pas mieux. Charlotte, elle a le tout dernier cri des portables, une pure merveille. Chaque fois qu'elle appelle une amie, elle se photographie l'oreille. Elle a un piercing sur le nez, elle estime depuis le CM2 être rebelle. Ça lui plairait, mais sa mère lui laisse faire ce qu'elle veut. À force qu'on lui répète qu'un disque est bien, qu'un film est beau, elle trouvait l'état des trucs chouettes, qu'au début elle aimait pas trop. Charlotte, elle aime pas la télé qui nous prend vraiment pour les glands. Elle peut le dire, elle est qualifiée vu qu'elle passe sa vie devant. L'argent c'est important, mais dans la vie ça fait pas tout. T'as beau être riche, si en même temps t'es pas célèbre, ça vaut pas le coup. Charlotte a lu dans un magazine des trucs de cul assez salaces, qu'elle aimerait bien faire avec Kevin, mais faudrait déjà qu'il l'embrasse. Je juge pas, c'est de l'intolérance. En étant démocratie, on a le droit de dire ce qu'on pense sans trop penser à ce qu'on dit. Parfois elle se déteste, elle se trouve trop cloche, puis elle se dit qu'à pire, qu'elle pourrait être moche. Petite, elle se voyait infirmière, secourant les gosses d'Éthiopie. Elle trouvait que l'humanitaire s'écoule, puis on voit du pays. Maman, elle parle que de mariage. D'avoir des gosses, trois cartes bleues, ses parents sont fiers qu'à son âge, elle soit déjà aussi con que...
Je te cale rien du tout du sport là parce que je me suis fait avoir par la fin. Voilà, supplément week-end, les invités sont toujours là et Duce vient d'arriver.
Si, il faut que tu le mettes là. Le premier, le haut de la pile, tu le mets, il n'y a qu'un morceau de toute façon.
D'accord, ok.
Ouais, histoire quand même.
Faut caler un CD.
Ouais, mais c'est une
quelle aventure. Hein.
Mais non, mais on est en direct et puis voilà, hein, comme d'habitude, vous me connaissez. Enfin, ceci dit, du sport pour la télévision, et j'espère que tu m'en veux pas trop suite au quiz que j'avais fait sur... Attends, c'est quoi ça?
Qu'est-ce qu'il nous a concocté encore?
Ouais, je l'ai trouvé. C'est le générique de l'une des meilleures séries télé qui passe en ce moment là, Véronica Mars. Voilà, et c'est les Dandy Warhols en fait, c'est tiré d'un album qui date de 2001, je crois, ou 2000. Celui où il y a la banane avec la fermeture éclair, hein. C'est la pochette qui est vachement reconnaissable. Et ce gros enfoiré de Joel Silver, ben, il a trouvé ce morceau pour refaire le générique d'une des meilleures séries actuellement diffusées sur la télé française. Sinon, il y a une seule nouveauté cette semaine. C'est vendredi prochain, c'est une série qui débarque bien entendu des USA et ça débarque sur M6, ça s'appelle Numbers. Numbers, et en fait c'est l'histoire de deux frangins, il y a un frangin qui est flic et l'autre qui est mathématicien, et donc ils vont s'entraider pour résoudre des enquêtes policières avec bien entendu l'aide des mathématiques. C'est là la grosse nouveauté.
Ah, ouais, c'est ça qui m'inquiète parce que au pitch, j'ai cru comprendre qu'ils utilisaient la numérologie.
Ouais,
ben, j'ai trouvé ça.
Non, pas que.
C'est un peu comme pi en fait.
Ouais. Ça booste bien. Ça booste bien, paraît-il. Interprété entre autres par Rob Moreau qu'on a vu dans cette série. Vachement zarbe qui s'appelle Welcome to Alaska. C'est l'histoire d'un médecin qui débarque dans une ville en Alaska où tout le monde vit comme ça en un truc et puis ils font des trucs un petit peu zarbi. C'est pas mal. C'est une série qui a été diffusée très tardivement sur SCRI Club, genre minuit, 1h du mat, tu vois, parce que bon, vraiment, et si tu rentres dedans, c'est pas trop mal, quoi, en fait. Sinon, la série de la semaine, c'est bien entendu Doctor House, hein, là, on ne s'en lasse pas. Regardez ça, c'est tous les mercredis sur TF6 à partir de 20h50. Hein, mercredi dernier, quand même, le joueur de baseball hein, qui fait une tentative de suicide à la digitaline. Et en plus, il a été intoxiqué au cadmium parce qu'il fumait de la marijuana qui avait poussé sur un sol qui était infesté par le cadmium. Ah non, mais quand même, très très fort. Hein. Et Dr House, pour fêter tout ça, il va voir les Monster Truck. Ouais, non, c'est génial. Vraiment, franchement, c'est génial. Et comme on avait prévu l'interview, donc pas de temps pour trop vous causer de télé. Vendredi prochain, t'as déjà le truc, hein. Sur TF1. Alors dans la série, on repique les concepts déjà éculés dans d'autres pays, mais ça fait rien, on peut les réadapter. Et en France, de toute façon, on avalera n'importe quelle saloperie, hein, du moment qu'on y met un petit peu les formes. C'est tiré de la toujours du en démol, hein, c'est Get Me Out of Here, I'm a Celebrity, le principe est simple, on balance une douzaine de gens qui sont soit connus, soit qui ont été connus, soit qui seront jamais
soit
connus.
Soit vous never been du tout.
Là, c'est dans la jungle et c'est à la démerde. Et puis bon, voilà, c'est les spectateurs qui votent. Enfin, ça n'a aucun intérêt. Hein. Bon, ça vaut rien. De toute façon, c'est sur TF1. ce qui vaudra rien non plus également, c'est déjà quand on voit le casting de Dallas, le film, pas la série, hein, le film qui va être
avec
Travolta. Mais attends, il y a Jennifer Lopez qui va jouer sous Hélène. Alors mort de rire, et Shirley MacLaine qui Campelli. Alors là, bon, c'est n'importe quoi. Bon, alors je vous ai concocté un petit quiz quand même.
Non,
très simple, très simple quand
non,
même
mais,
qui concerne les prénoms des personnages de séries télé. Oh, allez, c'est facile quoi.
Et il faut s'en mémorer dans les épisodes précédents,
hein. Ok.
Oui, parce que il répond à celui qui avait été fait par Xavier
là,
quand même.
Oui, mais attends, parce que là c'est vraiment des faciles, tout le monde devrait connaître. Normalement, j'ai marqué facile.
Je regarde pas la télé, donc je participe.
Ouais, mais c'est... il y en a même qu'on peut connaître sans regarder la télé.
Non. Oula, et Sabrina, vous pouvez participer.
Alors je dis, alors j'attaque avec Kojak, le prénom de Kojak.
Ah.
Allez, Kojak, il est grec. Allez, Kojak.
Andréopoulos.
Non, pas du tout. Ok.
Non, bon d'accord.
Mal barré. Théo, Magnum.
Théo.
Hein, je l'ai bien joué. Impeccable.
Sabrina.
Magnum. One point. Allez, Magnum.
Non, je sais pas.
PI.
Non. PI, c'est private investigator, hein, c'est-à-dire détective privé, quoi. Non. Thomas Sullivan. Thomas, il le dit, hein. Higgins le dit pratiquement à chaque épisode. Hein. Thomas, arrêtez. Il l'appelle pas Magnum, il l'appelle Thomas.
Ah si, comme dans Ardisson, il y avait le public qui avait dit avant, mais il n'avait pas accès au micro, le pauvre.
Ah ouais, d'accord, ok. Ma sorcière bien aimée.
Elisabeth.
Samantha.
Facile.
Celle-là, elle est pas évidente et pourtant, hein, il est vachement connu, le commissaire Moulin.
Oh, Antoine?
Pas du tout. Jean-Paul. Et là, pour me faire plaisir quand même, mais c'est Chimansky, hein, qui est d'ailleurs doublé par commissaire Moulin, quoi.
Détective.
La version française. Non, Chimansky, il a un prénom aussi, quoi.
C'est qui?
Et Horst.
Une question de Fred Boilet. C'est qui Chimansky?
Chimansky, c'est une série policière allemande, mais un petit peu décalée, genre avec un détective qui est, on va dire, toujours mal habillé, qui est un peu rebelle.
Ah oui, c'est le Colombo.
Ouais, mais lui, à chaque début d'épisode, il sort d'une cuite.
Quel est le prénom de...
Son appart est ravagé, enfin bon, c'est un peu l'antipique.
Et quel est le prénom de Colombo?
Il n'y a pas de prénom de Colombo. Ouais. C'est vachement intéressant que tu poses la question, parce qu'en fait, j'ai cherché, hein, et en fait, il n'y a pas de prénom
jamais
de Colombo.
C'est quand même ça, c'est
incroyable.
Le monde est merveilleux.
Ouais.
Allez, cette série est passée pendant 20 ans et personne n'essaie le prénom de ce gars. Personne ne s'est jamais posé la question.
On a jamais écrit, les auteurs n'ont jamais écrit de prénom à Colombo. Il faut dire que Colombo au départ,
Il faut l'émission sur éphémère aujourd'hui pour s'en apercevoir.
Non, parce qu'au départ, Colombo a été créé donc par Levinson et l'autre, je m'en rappelle pas, quoi. Et ça a été créé comme pièce de théâtre. Et Colombo, le personnage de Colombo, était en fait le personnage d'inspecteur tel qu'on connaît, mais était un personnage secondaire dans la série. Seulement, l'interprétation qui avait été donnée au théâtre avait été tellement convaincante qu'ils ont décidé d'en faire un personnage principal.
Et c'était Peter Falk qui jouait au théâtre, le rôle.
C'était Peter Falk qui ne jouait pas au théâtre, mais qui a été choisi pour interpréter la série parce qu'il a été encore plus convaincant que le mec qui jouait, la pièce au théâtre. Okay. On continue vite fait. Papa Schulz. Alors là, Papa Schulz, en allemand, là. Facile.
Stalag 13. Hein.
Hans, voilà. Hans Schulz. Alors, deux qui sont faciles en principe. Starsky.
David.
Ouais, bien joué. Et Hutch.
Hutchinson, non, je sais pas.
Ken Hutchinson. Et je termine par un que normalement les nanas, elles doivent savoir qui c'est le docteur Ross dans Urgence.
Doug.
George Clooney. Ah bah tiens, c'est pas bon ça, c'est pas bon Thomas. C'est pas bon Thomas.
Non, c'est marrant parce
c'est pas
que
bon Thomas.
Voilà un condensé de tout ce que j'essaye d'éviter. C'est ce que j'appelle les connaissances inutiles.
Exactement.
Et je pars du principe qu'une connaissance inutile prend toujours la place d'une autre qui pourrait l'être. Parce que je pense qu'on a un cerveau limité quand même. Et donc, moi, je suis ravi de pas savoir. Par exemple, j'ai pas d'idée. Je connais le nom de Loana, mais je vois pas son visage. Et j'en suis ravi. Peut-être que je mourrai, effectivement, sans jamais avoir eu l'esprit pollué par l'image de Loana. Je me trompe pas, c'est ça, hein,
oui,
Loana.
C'est Loana, oui.
Oui, mais elle sera justement dans l'émission de TF1 prochain.
Je ne vous félicite pas pour ce que vous venez de faire.
Fred Boilet, dans ce cas-là, on va te dédommager. On t'offre BM1P qui est le Gravzine de la radio. Ah,
je l'ai vu tout à l'heure, ça a l'air très très intéressant.
Je l'avais dit,
donc voilà.
À l'expo, je l'avais dit.
Oui, oui. Mais très bien. Mais bah, voilà, bon, ça fait un bon contrepoids avec les conneries qu'on vient d'entendre.
C'est un très beau Gravzine.
Donc voilà, donc c'est Kinou en plus qui est derrière. Donc on en remercie beaucoup une fois de plus. Et on va partir de suite puisque il est 13h passé et que on doit libérer la place. Donc, eh ben, si vous avez manqué le début, le résumé de l'émission Supplément Week-end, Thomas.
Il y a eu une erreur de programmation musicale. On recevait aujourd'hui Frédéric Boilet, Aurélia Horita, et on a eu également un coup de fil à Dominique Baudis.
Oui, j'espère bien qu'il a fait son œuvre celui-là. sinon, c'est tout. Il n'y a pas eu de vacherie en plus, truc mal placé.
Si, on a révélé les poissons d'avril de la semaine dernière. Et puis un petit quiz orchestré par du sport, avec quelques questions auxquelles on a répondu et d'autres pas.
D'accord, ok. On a dépassé que de 4 minutes, c'est franchement un très net progrès.
C'est encore.
Du sport finalement n'a pas son invité cette semaine malheureusement, mais bon, vous pouvez toujours réécouter les précédents numéros de Supplément Week-end de Radio FMR sur le site web www.radio-fmr.net ou cherchez Supplément Week-end FMR et vous tomberez dessus. Et ceci dit, et ben, Soredea Mata Raishu Sayonara.